Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Cette philosophie de la Chine, elle remonte au moins à 4000 ans. C'est-à-dire que les plus anciens textes, les plus anciennes sources scripturaires écrites sont contemporaines des civilisations les plus anciennes, donc de Babylone, de l'Égypte, du Moyen-Orient, de la Crète aussi. Enfin, donc c'est une civilisation très ancienne, et y compris au niveau des sources écrites, ce qu'on appelle les textes classiques. Et c'est une civilisation qui, malgré beaucoup de vicissitudes, de ruptures et de périodes extrêmement chaotiques, a connu une continuité tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une civilisation quand même encore vivante, même si, évidemment, elle a beaucoup changé, depuis les souverains mythiques dont on va parler aujourd'hui, en passant par toutes les révolutions culturelles ou pas qu'elle a connues. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand point d'interrogation, la Chine, puisqu'il y a des bouleversements économiques qui se font de manière extrêmement rapide, voire effrénée. Et c'est pour ça que je traiterai aujourd'hui aussi du renouveau actuel du confucianisme, ce qu'on appelle le confucianisme, puisqu'il y a des éléments intéressants qui sont encore difficiles à décrypter, à décoder, parce qu'on manque évidemment de recul. Mais depuis une trentaine d'années, quand même, il y a une vague de renouveau pour toute cette philosophie et tous ces textes confucéens. Alors, dans ce cycle, on va aborder plusieurs grands thèmes qui sont vraiment spécifiques de la philosophie, de la pensée chinoise. On va aborder aujourd'hui un personnage incontournable, qui est Confucius. Et donc, tout ce qu'on appelle le confucianisme ou les textes confucéens, essayer de cerner un petit peu cette philosophie. Et puis, on étudiera d'autres volets essentiels de la pensée chinoise, comme l'importance de la nature, ça c'est la prochaine conférence, plus en rapport avec ce qu'on appelle le Tao, le taoïsme. Et ensuite, nous reviendrons sur l'importance de la vision politique, le lien très très étroit qu'il y a en Chine entre philosophie et politique, et que le politique est au cœur, en fait, de la philosophie chinoise, ce qu'on va déjà voir ce matin avec Confucius, mais qu'on reverra encore plus à ce moment-là. Et nous reviendrons aussi sur le taoïsme, ce très bel enseignement du Tao, avec les pratiques alchimiques, taoïstes, et toute la vision du monde taoïste. Donc c'est pour avoir une vision la plus complète, si ça, là aussi c'est une gageure, de cette philosophie, de cette pensée chinoise, pour mieux tenter de la comprendre, parce qu'il est évident que leur vision est très très éloignée de la nôtre, et que toute tentative de comprendre avec nos propres critères, nos propres lunettes, nos propres prismes, évidemment déforme leur pensée. Alors, pourquoi commencer par Confucius ? Il est probablement le personnage, le philosophe chinois le plus connu du monde occidental. Le plus connu en Europe, et il va introduire en Chine une forme d'humanisme. On parle souvent d'humanisme confucéen, d'humanisme de Confucius, et une certaine conception de la culture humaine, de la culture de soi, de la culture que l'homme doit s'appliquer à lui-même, et ce qu'on va développer tout à l'heure, bien sûr. et il va avoir une confiance illimitée dans le processus de transmission. La transmission et l'importance de la transmission dans l'éducation est un des points clés de la philosophie de Confucius et de la formation, l'éducation des hommes politiques, des gouvernants, des princes, puisqu'il va arriver, comme on va le voir, à une époque extrêmement troublée, hein, déjà, de la Chine. Les textes qu'il va écrire, hein, ou qu'il va commenter, c'est ce qu'on appelle les classiques, avec un C majuscule, les textes classiques, on les verra. Et ce sont des textes, donc soit commentés par lui, soit écrits par lui, soit en partie par lui, et qui vont servir de base de l'éducation de toutes les élites lettrées de la Chine, hein, pendant plusieurs millénaires, deux millénaires exactement, mais aussi les fonctionnaires de l'administration publique, et en Chine, l'administration, hein, les fonctionnaires, c'est très important, mais aussi, en fait, par irrigation, le peuple, hein, va avoir accès au contenu de ces textes. Et on peut dire que jusque dans les années 1920-1930, ces textes vont être presque comme des textes sacrés. Hein, ce ne sont pas des textes où il y a une révélation divine, hein, mais comme ils contiennent tout ce que les Chinois pensent important sur l'éducation de l'homme, sur la culture de l'homme, sur comment il doit se comporter, notamment en société, eh bien, ces textes sont aussi sacrés, hein, que sont pour nous la Bible, la Torah ou le Coran, les textes religieux. Hein, ce sont des textes philosophiques, mais il y a une telle vénération et ils sont tellement importants pour l'éducation qu'ils sont vénérés, hein, comme des textes religieux, puisqu'ils vont expliquer la place de l'homme dans le monde. Alors, on a coutume de dire que Confucius, c'est l'idéal de l'homme de bien. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire être ou devenir un homme de bien. Et on va donc essayer de découvrir un texte à l'appui. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de bien? Ou une femme de bien? C'est le vrai. Hein, d'accord? Ok. Alors, Confucius, ses dates, c'est 551. On est avant Jésus-Christ, hein, 551-479. 551-479 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est une époque. Alors, pour avoir des repères, il est contemporain de qui? Il est contemporain des pré-socratiques. Contemporain des pré-socratiques, hein, c'est pour ça que c'est vrai que c'est une période vraiment chargé, hein, riche au niveau des grands personnages, des pré-socratiques pour ce qui nous concerne. On le dit contemporain de Lao Tzu, hein, l'autre grand philosophe chinois. On dit même, ça fait partie aussi de la légende, qu'il y a une rencontre entre Confucius et Lao Tzu et que Confucius a été un peu surpris, hein, ou déstabilisé par cette rencontre avec Lao Tzu qui était en pleine méditation, et on dit que ce qu'il aurait retenu de cette rencontre, c'est qu'il aurait rencontré le dragon, c'est-à-dire avec toute la puissance mais aussi le mystère du dragon. Bon, on ne sait pas exactement si cette rencontre est historique. En tout cas, comme il s'agit des deux grands systèmes à la fois philosophiques et religieux de la Chine, hein, confucianisme et taoïsme, hein, Confucius et Lao Tzu, bon, c'est pas un hasard si cette rencontre a été un peu mythifiée, mythologisée. Puisque l'autre apport, le bouddhisme, qui est aussi très important, est en fait un apport de l'Inde, Hein, ce n'est pas spécifiquement chinois, même si le bouddhisme s'est parfaitement intégré hein, aux philosophies existantes en Chine, à tel point qu'il y a parfois un mélange ou un syncrétisme entre les trois systèmes qui fait qu'un Chinois a toujours beaucoup de mal à se situer en tant que confucianiste ou confucéen, taoïste ou bouddhiste, puisqu'il y a beaucoup d'éléments communs. Et ça fait partie, ces trois systèmes font partie du socle fondamental de la philosophie et des croyances chinoises. Il est contemporain aussi de Bouddha, hein, en Inde, donc une période riche. Alors, Confucius, c'est son nom latinisé, hein, c'est comme ça qu'on le connaît en Occident, hein. C'est les jésuites, en fait, au XVIIe, qui l'ont appelé Confucius. Son nom chinois est Maître Kong. Kong, hein, K-O-N-G, Maître Kong, puisqu'il fait partie de la famille des Kong, ou on l'appelle aussi Kongzi. Kongzi, donc K-O-N-G, Z-Z-I. Et l'autre grand maître, c'est Lao-Zi, Kongzi. Et ce qui est important, c'est qu'il a vécu à une période troublée de l'histoire de la Chine, puisque l'histoire, enfin la période historique de la Chine commence à peu près 2000 avant Jésus-Christ. Et là, vous voyez, on est déjà 1500 après, donc il s'est déjà passé beaucoup de choses. Et la période de Confucius, de Kongzi, c'est la période qu'on appelle en Chine les printemps et automnes. Printemps et automne, du nom des deux saisons équinoxiales, hein, qui sont si importantes dans le calendrier chinois. Et c'est une période troublée de lutte intestine violente entre les différents royaumes. Hein, qui se battent pour avoir le pouvoir, puisque nous sommes avant, nous sommes trois siècles avant l'unification de la Chine, hein, avec le fameux Qin Shi Huangdi qui va unifier la Chine en 220 avant Jésus-Christ et qui va être appelé le premier empereur de Chine. Mais en fait, des empereurs ou des gouvernants, des rois, il y en a eu bien avant, mais dans une sorte de morcellement de la Chine où chacun veut avoir le pouvoir complet. Donc une période extrêmement troublée et, selon Confucius, évidemment déjà de décadence. Et il considère que sa mission est d'essayer de ramener un petit peu d'harmonie, un petit peu d'harmonie et de paix dans ce monde troublé. A-t-il réussi ? Il n'a pas forcément réussi à convaincre les gouvernants de son époque, hein, pour cela il considère que ça c'était un peu un échec. Par contre, le fait qu'on parle encore de lui et qu'il ait été à l'origine de ce courant confucéen si important pour l'identité chinoise, eh bien là on peut dire que oui, il a réussi sa mission. Donc cette Chine de cette époque, hein, de Confucius, se caractérise essentiellement par la décadence, c'est comme ça qu'il l'écrit en tout cas, enfin qu'il le dit, puisqu'il ne va rien écrire exactement lui-même, en tout cas ça reste un peu mystérieux. Il dit que c'est la décadence, la dégénérescence du pouvoir central et la domination du cynisme politique. Et c'est dans ce contexte de bouleversement, de décadence, de déchirement hein, des royaumes entre eux qu'il faut replacer les principales préoccupations de Confucius, et en particulier son insistance sur ce qu'il appelle la perte du mandat céleste. La perte du mandat céleste, je vous expliquais tout à l'heure ce que c'est, et de manière plus abrégée, on va dire, la perte de la voix. V-O-I-E, hein, c'est-à-dire... pour lui, les gouvernants, les hommes politiques, les fonctionnaires, enfin, que ce soit à tous les niveaux hein, de la hiérarchie sociale, on a perdu la voix. On a perdu le Dao ou le Tao, c'est-à-dire ce sentiment d'unité ou d'union avec la nature. Et l'intérêt avec la vision chinoise, c'est que cette perte d'unité ou du Dao, eh bien, elle se voit. Et notamment, elle se voit dans le fonctionnement de la nature, parce qu'on assiste au dérèglement de la nature. Il y a des tremblements de terre, des inondations, deux soleils qui apparaissent dans le ciel, disons des choses qui ne sont pas très normales. Pour un Chinois, ceci n'est pas simplement un phénomène naturel, secondaire, extérieur à l'homme. Si la nature se dérègle, si la nature se révolte, c'est que l'homme y a une responsabilité, et une responsabilité majeure, dans le sens où l'homme, mais surtout les gouvernants, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, ne sont plus capables de maintenir le lien entre le ciel et la terre. Là, je vous explique, hein, parce que ça, c'est très différent de notre vision, hein, plus rationnelle, où on va expliquer les tremblements de terre, les inondations par plein de phénomènes naturels, hein, rationnels, alors que pour un Chinois, encore aujourd'hui, l'homme a une responsabilité dans ce dérèglement, comme il a pu avoir une responsabilité dans le bon fonctionnement de la nature et dans l'harmonie, la grande paix, hein, ça c'est des mots très importants, l'harmonie, la paix qui a pu régner à un certain moment en Chine. Donc, ce qui va évidemment découler de cela, c'est qu'il va falloir donner aux Chinois les principes d'une éducation qui permettent de revenir hein, et de revivre cette harmonie et cette voie. Remettre la Chine dans le bon chemin, hein, dans la bonne voie. Et donc, il se sent chargé de cette mission essentielle d'éveiller, comme il dit, d'éveiller le monde comme un gong. C'est-à-dire de réveiller les consciences pour leur faire prendre conscience qu'ils se sont éloignés, qu'ils ont dévié de la voie. Et il veut leur faire retrouver cette voie de la paix et de l'harmonie. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit ? On ne sait pas exactement, puisque même les ouvrages qu'on verra tout à l'heure qui lui sont associés, on ne sait pas exactement s'il en est l'auteur ou si ce sont des ouvrages collectifs, ou qu'il aurait commenté, comme par exemple Yi Qing, le livre des métamorphoses, des transformations. En tout cas, ce que l'on a, ce sont des éléments qui auraient été compilés, donc mis par écrit, par ses disciples, en tout cas par ses disciples les plus proches, et donc l'œuvre maîtresse de Confucius, ce sont les entretiens de Confucius, qui sont 20 petits chapitres autour de grands thèmes, de l'homme, du pouvoir, du mandat céleste, de cette fameuse qualité qu'on va étudier qui est le REN, hein, R-E-N, qui est le cœur même de l'humanisme confucéen, mais qui n'ont pas été écrits hein, par lui-même, qui ont été, comme souvent, écrits, compilés par les disciples en fonction de ce que les disciples comprenaient ou retenaient, hein, dont ils avaient mémoire. Alors, la légende lui attribue parfois une vie de gloire et de très très nombreux disciples, puisque l'historien se maintient, parle de 3000 disciples. Bon, c'est probablement un peu exagéré. Il a eu une vie assez simple, en fait. Et s'il était entouré de 70 disciples déjà, c'était pas mal. il y a évidemment, à partir de sa mort, bon, toute une mythologisation de sa vie, mais en fait, c'est quelqu'un de simple et qui a toujours fuit les honneurs pour vivre dans certaines rigueurs et authenticité. Il se présente avant tout comme un éducateur, hein, donc comme un réveilleur de conscience, comme quelqu'un qui va ramener un certain nombre de principes éthiques, hein, ou moraux, et ses ambitions politiques se résument au fait d'apporter cette parole et cet enseignement aux politiques, aux gouvernants. Lui-même n'a jamais eu d'ambition personnelle niveau politique, mais plutôt de faire changer le point de vue des gouvernants. Et de ce point de vue-là, il considérait qu'il avait échoué. Alors, quelques éléments rapides de sa vie, et puis on passera évidemment au cœur de son enseignement. Sa vie, bon, sa naissance a été un petit peu irréelle, un petit peu surnaturelle, puisque on raconte que son père va se marier sur le tard, hein, sur le très tard, à 70 ans, hein, avec une très jeune femme, afin d'avoir un descendant. Hein, donc voilà. Et cette jeune femme, avant de mettre au monde Confucius, on dit qu'elle aurait eu une vision, et qu'elle aurait eu la vision d'une licorne. Vous savez, cet animal pur, immaculé, hein, avec cette corne unique, hein, que nous avons aussi dans nos, hein, dans nos histoires en Occident. Mais en Chine, la licorne a un symbolisme très particulier. C'est le symbole du roi sans couronne. Du roi sans couronne. C'est-à-dire de quelqu'un qui a l'étoffe d'un roi, ou qui va avoir un rôle important dans le monde, comme un roi, mais sans couronne, c'est-à-dire sans pouvoir politique concret. Et c'est bien ainsi que Confucius est considéré, déjà un peu de son vivant, mais surtout après sa mort, un roi sans couronne. Et donc sa mère, en le mettant au monde, savait déjà qu'elle mettait au monde un petit être exceptionnel. Bon, là aussi, hein, il faut le prendre comme les Chinois nous le racontent. Donc il naît en 551 avant Jésus-Christ à Kufu, un petit village du pays de Lu, à l'est de la Chine, sous la dynastie qu'on appelle des Zhou. Bon, là je vous renvoie aux chronologies historiques de la Chine. Les Zhou, qui vont, c'est une grande dynastie, qui vont se diviser en Zhou orientaux, Zhou occidentaux, et bon, c'est Zhou, Z-H-O-U, les Zhou. Bon. Et son père meurt quand il a 3 ans, hein, donc voilà, et le petit Kongze, hein, se passionne très jeune pour les études. Il a la chance de pouvoir fréquenter des collèges pour les nobles, alors qu'il est d'origine très modeste, où est enseignée la vie militaire, mais aussi la vie de cour. Et donc c'est là où il va apprendre l'histoire, la littérature, le calcul, la musique qui va jouer un rôle très important dans son enseignement, et aussi le tir à l'arc, enfin toutes les disciplines, disons, des nobles de l'époque. Et on dit que tout petit, il y a quelque chose qui avait suscité l'interrogation de ses maîtres, c'est plutôt que d'aller jouer avec ses petits camarades, eh bien, il aimait à ranger les vases qui servaient au sacrifice. Bon, là, c'est aussi un élément qui témoigne de l'importance qu'il va donner à la vie rituelle, au rite. Je développerai tout à l'heure ce que c'est. La vie rituelle, la vie ritualisée et le rôle fondamental de respecter les rites dans la vie, justement, de l'homme de bien. Et donc cet amour pour les vases de sacrifice témoigne de cette importance du rite dans l'éducation de l'honnête homme. Alors, il va être employé en tant qu'intendant des greniers publics, hein, donc d'abord un poste assez modeste, hein, de fonctionnaire, hein, où il compte, hein, les stocks des greniers. Et il va être remarqué par sa précision, son exactitude et sa grande érudition. Et on dit qu'à 22 ans, il est devenu un grand érudit et il va ouvrir une école dans son village où il enseigne l'histoire. L'histoire. Ça, c'est un élément essentiel dans l'éducation Confucius, connaître l'histoire. Et les grands personnages historiques et mythiques de la Chine. Et finalement, peu à peu, il commence à être connu et il est consulté par un grand nombre de souverains, hein, de ces royaumes combattants. Et certains lui proposent même des postes importants. Et on dit qu'il les accepte ou les refuse selon l'éthique du souverain. Bon, c'est des petites anecdotes, hein, mais pour montrer que pour lui, l'essentiel, c'est l'éthique. Donc si c'est un souverain qu'il juge vertueux, qui lui propose un poste, il sera enclin à l'accepter, et sinon, à le refuser. Il est nommé gouverneur du district de Lu, donc de son endroit de naissance, puis ministre de la justice, hein, donc toujours de son royaume, hein, pas de la Chine entière qui n'est pas unifiée, mais de son royaume. Ministre de la justice, et on dit que le pays, le royaume, a connu sous son ministère une période de paix et de tranquillité inconnue jusqu'alors. Ensuite, il va quitter son pays pour entreprendre de multiples voyages, donc dans d'autres royaumes, et enseigner. Et donc, c'est essentiellement une vie de voyage, d'enseignement, de transmission. Il a toujours répété après les mêmes choses sur l'impérieuse nécessité de revenir à la voie. Après 14 ans de voyage, il rentre dans son ancienne province et on dit qu'il constate que son enseignement reçoit toujours une grande écoute. Il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été écouté, mais que jamais son enseignement n'est appliqué. Voilà, ou tout de moins appliqué de manière correcte. Et là, ça nous renvoie aussi à l'autre enseignement de l'autre grand sage, Lao Tzu, qui disait « Mes principes sont très faciles à appliquer et pourtant personne ne les applique. Voilà. » Donc un peu de désespoir quand même de voir milliers de personnes à son enseignement, mais très peu de compréhension profonde et d'application de ses enseignements. Et donc il va passer tout le reste de sa vie à enseigner, à parler, à transmettre. Et il mourra donc à l'âge de 72 ans. Alors, on le présente souvent comme un homme à la fois doux et ferme, grave et souriant. Ça, c'est l'historien, grand historien chinois, Sun Matien, qui va écrire sa biographie. Et il aimait beaucoup la musique. On dit qu'il aimait beaucoup la musique et était prudent dans l'action. Partisan avant tout de l'équilibre et de la mesure. Alors je vais vous lire quelques passages, hein, des entretiens, puisque ça permet d'avoir un contact direct avec son enseignement, en tout cas ce qu'on pense être son enseignement. Alors voilà ce qu'on trouve dans les entretiens. Je vous conseille vraiment d'acheter un petit livre. Sur l'homme, le maître dit, vous voyez donc, hein, c'est le disciple qui dit toujours, le maître dit, qui gouverne par la vertu est comparable à l'étoile polaire, immuable sur son axe, mais centre d'attraction de toute planète. L'étoile polaire, dans l'astronomie chinoise, a un rôle très important puisque, par exemple, la cité interdite de Pékin a été construite par évidemment des architectes, un grand nombre d'érudits qui connaissaient très bien les constellations et le ciel chinois. Et le nom chinois de la cité interdite, c'est la cité pourpre de l'étoile polaire. C'est dire si cette étoile polaire, hein, qui est la plus fixe hein, dans le ciel, est une référence pour les astronomes chinois et aussi les fameux spécialistes, hein, experts en feng shui. Hein, cette science très à la mode aujourd'hui du choix des lieux et des caractéristiques énergétiques, entre autres, des lieux pour les habitations des vivants comme des morts. Donc, l'étoile polaire, immuable sur son axe, mais centre d'attraction de toute planète. Et c'est ça que Confucius voudrait que l'homme redevienne un petit peu, comparable à cette étoile polaire. Stable et en même temps centre d'attraction. Et surtout pour les gouvernants, les princes, les politiques, qui puissent être centre d'attraction pour le peuple. C'est-à-dire exemple, modèle de vertu exemplaire. Le maître dit « Gouverner à force de loi, maintenez l'ordre à coup de châtiment, le peuple se contentera d'obtempérer, sans éprouver la moindre honte. Gouverner par la vertu, harmonisé par les rites, le peuple tendra de lui-même vers le bien. » Donc ça, c'est important parce que bien souvent, par la suite, on va présenter la pensée de Confucius comme une pensée valorisant la force, hein, la puissance. Hein. Et là, on voit bien que ce n'est qu'un pis-aller, puisque le mieux, c'est de gouverner le peuple par la vertu, d'harmoniser par les rites, et pas à coup, justement, d'obligation, de contrainte ou de châtiment. Le maître dit « À 15 ans, je résolus d'apprendre. À 30 ans, je m'affermis dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. À 70 ans, j'agissais en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle. » Voilà le programme d'éducation. Vous voyez ? Pour à 70 ans, agir en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle. Ça, c'est une des spécificités chinoises qu'on verra aussi avec le Tao, qui est que pour un Chinois, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'obéir aux règles, de faire les rites comme il se doit, enfin voilà, de se couler dans une sorte d'obéissance assez radicale aux lois, aux règles, aux contraintes, et en même temps de se sentir libre. Puisque même, en tout cas, là c'est assez clair, que la liberté s'obtient par l'obéissance aux règles, à la nature, aux lois, à la voie. Et que ce qu'il faut surtout éviter, c'est la déviation. C'est pour ça l'importance de l'éducation, pour que chacun puisse sentir, quand il est dans la voie, dans le Tao, dans le juste, et lorsqu'il dévie. Le maître dit, le livre des Odes, c'est un des livres auxquels fait référence Confucius, compte 300 poèmes, mais l'essentiel se ramène à trois mots, sans jamais dévier. 300 poèmes, très beaux, magnifiques, mais trois mots, sans jamais dévier. Le maître dit, toujours dans le livre 2 de l'homme, le bon maître est celui qui, tout en répétant l'ancien, est capable d'y trouver du nouveau. Alors ça, c'est une phrase importante, elle est courte, mais le bon maître est celui qui, tout en répétant l'ancien, est capable d'y trouver du nouveau. Ça, c'est très important parce qu'en fait, après, il va y avoir toute une rigidité qui va être apportée à cette philosophie, à ce mode de vie. Et on va souvent parler du confucianisme comme synonyme de conservatisme. Voilà, on veut conserver l'ancien, les rites, exactement comme toujours. Alors qu'en fait, ça, c'est peut-être certains confucianistes ou confucéens qui l'ont apporté, mais dans la pensée initiale de Confucius, c'est pas ça. C'est-à-dire, on s'inspire, on se laisse féconder, on irrigue par l'ancien, mais toujours en rajoutant une adaptation du nouveau. Et les rites, en ce sens, sont toujours à réinventer. Sans mécanicité, sans les répéter toujours à l'identique. Il y a des règles, évidemment, auxquelles il ne faut pas déroger. Mais à partir de là, il y a une adaptation des formes. Et ça n'a pas toujours été compris. Et on voit même dans l'étiquette, par exemple, impériale, jusqu'au dernier empereur, que ces éléments rituels se sont fossilisés, ils se sont rigidifiés, ils se sont cristallisés dans une étiquette protocolaire, entre autres, totalement, finalement, aberrante. Mais ça, on ne peut pas dire que Confucius est responsable de cela, ce n'est pas ce qu'il enseignait, la preuve. Semble-t-il, mais c'est ensuite les hommes qui ont, ils ont rendu tout cela extrêmement rigide. Alors, quelle est sa vision de l'homme, justement? Ce qu'on appelle l'humanisme confucéen. C'est un grand sinologue, aujourd'hui disparu, Marcel Granet, que si vous voulez connaître la pensée chinoise ou la civilisation chinoise, vraiment, je vous conseille de lire. Ces livres, probablement, seront difficiles à trouver dans les temps futurs, parce qu'il est déjà plus forcément réédité. Mais il a été la base d'études de beaucoup de sinologues. Marcel Granet, qui, même s'il était occidental, a bien pénétré ces mystères de la pensée chinoise. Et Marcel Granet dit de la doctrine de Confucius. La doctrine du maître paraît avoir été une doctrine d'action. Doctrine d'action. Il enseignait une morale agissante. Et la lettre des principes l'intéressait moins que l'action morale qu'il entendait exercer. Ces termes sont importants. Une morale agissante, donc, c'est pas qu'il enseignait l'éthique, la morale, simplement pour les grands principes ou les belles idées qu'il y avait, mais surtout pour que ce soit appliqué. C'est pour ça sa déception, son amertume de fin de vie, de voir que son enseignement était écouté, mais pas appliqué. Donc, la lettre des principes l'intéressait moins que l'action morale qu'il entendait exercer. C'est en tant que directeur de conscience qu'il semble avoir mérité son prestige. Il n'hésitait pas, selon les hommes et les circonstances, à donner des instructions que l'on trouvait contradictoire. Et lui-même, on a dans les entretiens un disciple qui rapporte qu'il aurait dit « Les traînards, je les pousse, les fougueux, je les retiens. » Donc, faut-il pousser ou retenir? Ben, ça dépend à qui on s'adresse. Pour montrer le côté pragmatique aussi, de son enseignement. en fonction de la nature des disciples qu'il écoutait, eh bien, il poussait ou il retenait. Et il reconnaissait qu'il est toujours plus facile de retenir un fougueux que de pousser un traînard. Donc, contradictoire, parce que dans certains cas, faut pousser, dans d'autres cas, faut retenir, et donc on ne peut pas avoir un dogme quant à l'éducation, parce que cela dépend évidemment du contexte et du tempérament. Il imposait aux uns de songer tout d'abord à mettre les préceptes en action, mais à Tselou le hardi, il conseillait de ne rien faire sans consulter père et frère aîné. Donc là, on le voit comme directeur de conscience, comme donneur de conseils, en fonction de la nature du disciple. Donc la pensée de Confucius propose, on peut dire, un idéal éthique et politique pour l'homme. C'est-à-dire que, et là on verra la complémentarité avec le taoïsme va surtout voir le Tao ou le Dao, la voie, comme l'union ou le lien entre l'homme et la nature, avec les grands principes de la nature. Pour Confucius, la voie, elle est avant tout sociopolitique. C'est-à-dire, elle est pour l'éducation du citoyen. Et si les taoïstes vont parfois conseiller aux hommes de s'éloigner de la ville, de s'éloigner des contraintes sociales pour mieux vivre cette voie, dans la nature notamment, pour Confucius, c'est dans la cité, c'est dans la ville, c'est par le frottement avec les autres que se fait le citoyen et donc l'être humain. Par les rites aussi, par la piété filiale, par les rites aux ancêtres, par toutes ces obligations, entre guillemets, qui vont façonner l'être humain. Alors, il va se référer, Confucius, très souvent, semble-t-il, à ces fameux souverains mythiques de la Chine. Puisque, je répète, on est dans une période de décadence, donc de désagrégation politique et sociale. Et donc, quand Confucius dit qu'il faut éveiller le monde comme un gong, il va se référer à un certain nombre de valeurs que pour lui ont existé en Chine, ont été appliquées, mais dans une période extrêmement lointaine de l'histoire de la Chine, mais aussi dans la mythologie chinoise. Et on ne peut pas, je pense, comprendre Confucius si on ne connaît pas deux, trois éléments de base de cette mythologie. C'est-à-dire de comment le monde a fonctionné. Donc je vais vous rappeler ces deux, trois choses pour comprendre à quoi Confucius fait référence. Dans la mythologie chinoise, et bon, celle-là, elle n'a pas de date, mais on sait que déjà en 2000 avant Jésus-Christ, 2005, on y fait référence. On a une sorte de démiurge, de divinité ou d'homme cosmique, qu'on appelle Pankou. Je vais vous écrire deux, trois choses au tableau.
Ça très, très schématique. Donc, Pankou, bon, une sorte d'homme cosmique, d'homme univers, qui va, d'où va sortir ce qu'on appelle les trois augustes. Les trois augustes qui sont un couple primordial, je ne vous donne pas les noms pour ne pas vous charger, mais ça vous intéresse de donner la bibliothèque. Un couple primordial et leur fils. Classique. Donc trois. Donc là, il y en a trois. Et à partir de ce couple primordial et de leur fils, qui va être le couple civilisateur et le fils qui va aussi apporter la connaissance de l'agriculture, enfin, des choses concrètes, on va avoir ce qu'on appelle les cinq souverains mythiques. Ça, c'est très important à comprendre, de la mythologie chinoise. Un être cosmique primordial de l'unité, un. Ensuite, une trinité. Et ensuite, cinq souverains mythiques. Pourquoi ? Parce que ils vont constituer l'espace, et l'espace chinois est constitué de cinq directions. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long du cycle, que chinois résonne en cinq, et pas en quatre. Donc, on a cinq points cardinaux, cinq directions, plus exactement cinq directions de l'espace, qui sont les mêmes que chez nous, hein, le nord, le sud, l'ouest et l'est, mais on a la cinquième dimension qui est le centre, qui est essentiel. Et pour le temps, ça sera pareil. On a cinq saisons. Donc, quel est le rôle de ces souverains mythiques pour Confucius et, disons, dans le fond culturel chinois? Ces cinq souverains mythiques, ils sont dans le temps mythique. C'est-à-dire dans un temps qui ne s'écoule pas. Donc, ces souverains mythiques ne se succèdent pas les uns aux autres. Ils vont chacun apporter un élément. Puisqu'on est, pour l'instant, que dans l'espace. Il n'y a pas de temps chronologique. On est dans l'espace. Donc, ils vont constituer l'espace et chacun, va dire Confucius, fait régner cette sorte d'harmonie complète, cette paix complète, par la qualité de la vertu qu'il va dégager. Donc là, on a cette notion, avec les cinq souverains mythiques, de la vertu. Chacun a une vertu complète. Chacun de ces cinq souverains mythiques fait régner la paix sur, disons, l'espace auquel il est associé. Donc, ces cinq souverains mythiques, c'est vraiment cette référence si importante pour les Chinois qu'il fut une époque où il y avait l'harmonie, la paix, la vertu qui régnait dans le monde. Alors, c'est mythique, c'est la référence mythologique, mais en tout cas pour Confucius, c'est essentiel, parce qu'il va beaucoup nous parler, pas forcément des cinq, mais il va souvent citer les deux derniers comme modèle exemplaire de l'empereur, hein, ou du prince, qui sait, par sa seule présence, faire régner l'harmonie. Et c'est ce qu'on va trouver comme notion spécifique en Chine, la notion d'efficace, qu'a très très bien étudié Marcel Granet. L'efficace, qui est cette notion d'efficacité, mais attention parce que c'est pas une efficacité simplement concrète, hein, quand on dit aujourd'hui quelqu'un d'efficace, qui fait beaucoup de choses, non. C'est plutôt, ce serait notre notion d'efficience, c'est-à-dire ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. L'efficace, c'est cette vertu, cette qualité de l'être qui fait que, voilà, elle va rayonner par elle-même. Et il est évident qu'à cette époque, la nature est harmonieuse. Les fleuves restent dans leur lit, la terre est tranquille, il n'y a qu'un soleil dans le ciel, la lune joue son rôle, enfin, tout est en paix, tout est en harmonie. Et l'énergie, puisque la clé de compréhension de la pensée chinoise, c'est quand même la clé énergétique, l'énergie circule dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est et au centre. Donc cette harmonie, cet équilibre, il est aussi énergétique. Et donc, quid des êtres humains qui vivent à cette époque ? Eh bien, ils bénéficient évidemment de cette vertu, de cette efficace. Ils vivent dans l'harmonie, dans ce que les Chinois appellent la grande paix.
ce que les taoïstes vont appeler parfois le non-agir, le wu-wei, la non-action, mais sur laquelle vraiment il ne faut pas faire de contresens. Parce que ce n'est pas simplement de ne pas agir, parce que ça serait simple, mais ça serait de ne pas apporter par son action de perturbation, de disharmonie à cet équilibre justement cosmique. Ça, le wu-wei, la non-action, c'est plus taoïste. Donc, voilà l'histoire de Confucius, c'est donc, rappel de cette nuit de vœux, et ça fait partie de l'éducation confucienne. Connaître cela pour avoir ces références, ces modèles exemplaires, ces souverains qui ont régné à une époque, et évidemment, desquels les souverains actuels se sont éloignés. Puisque ce qu'il va expliquer, c'est qu'après ces souverains mythiques, il y a un personnage qui va faire un peu la charnière entre le mythe et l'histoire, c'est Yu, le fameux Yu le Grand, Yu, qui va être fondateur de la première dynastie historique chinoise, hein, qui va endiguer les eaux, enfin qui va faire plein de grands travaux. Donc c'est vraiment le bâtisseur, Yu. Et à partir de là, on a les souverains historiques. Et ce que Confucius va expliquer, c'est qu'à partir de Yu et des souverains historiques, eh bien, ça en est fini de cette belle harmonie. Parce que la vertu des souverains, elle va devenir cyclique. Donc, un souverain qui prend le pouvoir, au mieux, il a cette vertu, il a cette efficace, qui va grandir, arriver à une période d'apogée, et inexorablement, puisque là, cette fois, on est dans le temps historique, cette vertu va décliner. Il y a un fonctionnement radicalement différent quand on rentre dans l'histoire.
Juste une petite question. À l'époque, pour Confucius, est-ce que ces souverains mythiques existent ou ils existaient ?
Ils existaient, ils existent dans le mythe.
D'accord.
Disons, c'est...
Mais ce n'est pas comme une référence, entre guillemets, grecque religieuse.
Ah, si, un peu. Mais simplement, il y a cette même référence à un monde, un âge d'or.
D'accord. Hein? D'accord.
Oui, c'est un peu l'équivalent. Mais, disons, pour Confucius, ces souverains avaient existé. Mais, voilà, dans un temps, un autre temps. Je ne sais pas si c'est utopique, en tout cas, ça se trouve partout. Dans toutes les civilisations, il y a cette référence. Alors après...
C'est le paradis terrestre, alors ?
Ah non, c'est différent. Ce n'est pas une métaphysique, mais parce que la clé, j'insisterai beaucoup là-dessus, la clé chinoise n'est pas métaphysique. Les Chinois... sont pas des métaphysiciens, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, mais la clé pour les comprendre, c'est une clé d'énergie, hein, et d'illumination, voilà, et de lumière et d'harmonie, mais qui se reflète dans le plan énergétique. Mais c'est pas des grands métaphysiciens. Par contre, ce qu'ils vont mettre en place est d'une opérationnalité, d'une efficacité, là, extrêmement grande. Alors, donc, à partir des souverains historiques, la vertu, cette fameuse vertu, hein, qu'on va trouver dans le Tao, hein, le Tao Te King, c'est la voie et sa vertu, hein, Te, c'est la vertu, donc va passer par des périodes donc de début, de développement et de déclin. Et ce que Confucius explique, c'est que quand la vertu d'un souverain décline, donc la nature en est l'écho, c'est-à-dire c'est là où il y a ces fameux tremblements de terre, inondations, etc., ce qui permet au peuple de dire, bon, ben ça y est, il nous faut un nouveau souverain. Il n'y a pas besoin d'élection, c'est clair pour tout le monde que le souverain n'est plus investi du mandat céleste. Il n'est plus investi de la vertu, il n'est plus investi du mandat céleste, il n'est plus fils du ciel et de la terre. Il n'est plus capable de faire le lien entre le ciel et la terre. Donc, exit. Et il y a un autre souverain, et ce n'est pas héréditaire, en tout cas au début, qui, lui, va incarner cette vertu naissante, puis grandissante, puis déclinante. Donc l'intérêt, c'est que, comme il y a cette symbiose entre l'homme et la nature, quand le gouvernant ne joue plus son rôle, ça se voit. Voilà. Et donc, ce que Confucius va enseigner, c'est comment se laisser à nouveau inspirer, ou prendre de nouveau comme référence, ces souverains mythiques, ces souverains exemplaires. Comment revenir à l'application de la vertu et de l'harmonie. Donc, ça c'est très très important, c'est ce que Granet explique excellemment bien, cette notion de vertu ascendante, apogée et déclinante. Puisque tout être humain, aussi exemplaire soit-il, de toute façon, ne peut pas, puisqu'on est dans le temps historique, de chronologie, ne peut pas toute sa vie être un canal, être un médiateur, être un pontife, un pont entre le ciel et la terre. Puisque là, c'est vraiment, rappelez-vous, les empereurs chinois, on les appelle comment ? Les fils du ciel. Dans un territoire qui est l'empire du milieu. Donc on est là toujours dans cette nécessité d'être au centre. Et le souverain, l'empereur, est celui qui est au centre, qui est le canal parfait entre le ciel et la terre. Et le jour où il n'est plus ce canal parfait, il doit laisser la place. Puisqu'il ne fait que rendre, plus rendre service au peuple. Donc voilà les références de Confucius, ces deux fameux. Parce qu'il y en a cinq, mais il parle souvent des deux derniers. Bon, c'est Yao et Shu. Voilà.
Qu'est-ce qui symbolise
Disons, je pense que c'est aussi ce qu'on a gardé des éléments de Confucius. Il a pu citer les cinq, parce qu'à un certain moment, il cite les cinq, mais il parle surtout des deux derniers. Mais vous vous rendez compte que cette expression « dernier » n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de temps. Voilà. Donc, pour lui, ces souverains mythiques, ces souverains exemplaires montrent le chemin, puisque c'est la voie ancestrale. C'est ce qui donne aussi un autre aspect de l'éthique confucéenne, le respect des ancêtres. Et pour ça, il y aura donc ces modèles exemplaires. Sa réponse à un disciple qui lui demande comment servir les esprits est caractéristique à cet égard. Tant que l'on ne sait pas servir les hommes, comment peut-on servir leur man, c'est-à-dire leur esprit? Donc, là, on a quelque chose qui ressemble un peu à la vision bouddhiste. Pas de grande réflexion métaphysique sur l'univers fini, pas fini. Non, des réflexions très concrètes, très pragmatiques sur comment être un bon fils, comment être un bon père, comment être un bon frère pour pouvoir être un bon citoyen et ensuite peut-être un bon gouvernant, un bon empereur. Mais ça commence par le fait d'être un bon fils, la piété filiale. Et si quelqu'un n'est pas un bon fils, il est illusoire de penser qu'il pourra être un bon citoyen et briguer une responsabilité quelle qu'elle soit. Donc ça commence dans la structure, voyez, familiale de base. Et il va beaucoup insister sur le fait. Comment être un bon fils? Comment appliquer la piété filiale, le culte des ancêtres? Et c'est ça qu'on appelle chez Confucius être un homme de bien, un homme de qualité. C'est pas, ça ne fait pas du tout référence à une extraction sociale, mais au fait de vivre un certain, et d'appliquer un certain nombre de qualités éthiques.
L'énergie mise à part, que ce soit l'harmonie dans la nature, la recherche de l'homme, la philosophie.
Oui, mais on est en Chine.
Oui.
Oui, le perfectionnement, oui, le côté éthique, le côté perfectionnement, le côté éducation, justice, mais. Oui, oui. Sûr, mais. en Chine, c'est-à-dire avec vraiment une vision différente. Différente.
C'est l'époque qui veut qu'on ait les mêmes objectifs quelque part.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Alors, bon, on va faire la pause peut-être. Hein? Oui. Fais la pause et on continue. Qu'est-ce que le règne? Alors, il y a pas mal de réponses. Yan Hui pose la question au maître qui lui répond: l'homme de Rennes, Rennes, R-E-N, c'est un mot chinois. L'homme de Rennes est celui qui fait effort sur lui-même pour revenir au rituel. Quiconque s'en montrerait capable, ne serait-ce qu'une journée, verrait le peuple entier honorer son règne. N'est-ce pas de soi-même et non des autres qu'il faut en attendre l'accomplissement? Alors le disciple Yan Hui, pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre? Et le maître répond: ce qui est contraire au rituel, ne le regarde pas, ne l'écoute pas. Ce qui est contraire au rituel, n'en parle pas, et à plus forte raison, n'y commets pas tes actions. Yan Hui, le disciple, je ne suis guère intelligent, mais je ferai de mon mieux pour appliquer ce précepte. Il y en a au moins un qui dit, bon, bah, ok, pas très intelligent, mais je vais quand même essayer d'appliquer. Autre, c'est du livre 12, hein, des entretiens. Fan Shi, un autre disciple, qu'est-ce que le règne? Et le maître répond, c'est aimer les hommes. C'est aimer les hommes. Fan Shi, non. Et la sagesse? Le maître répond, c'est connaître les hommes. C'est savoir choisir les hommes droits et les placer au-dessus des hommes pernicieux, afin que ces derniers s'en trouvent redressés. Fan Shi, en quittant le maître, rencontre Zixia. Je viens de voir le maître et de l'interroger sur la sagesse. Il m'a répondu, c'est savoir choisir les hommes droits et les placer au-dessus des hommes pernicieux, afin que ces derniers s'en trouvent redressés. Qu'en penses-tu? Et Zixia lui répond, quelle richesse dans ces quelques mots. Lorsque Shun, un des empereurs mythiques, devenu maître du monde, distingua Gao Yao de la multitude en l'élevant au rang de ministre, les hommes privés de règne s'éloignèrent. Lorsque Cheng Tang, devenu maître du monde, distingua Yi Yin en l'élevant au rang de ministre, les hommes privés de règne disparurent. C'est comme par magie, entre guillemets, où, à partir du moment où il y a, surtout un poste, disons, important de gouvernance, un homme qui possède le règne, eh bien, ceux qui en sont privés s'éloignent ou disparaissent. Et c'est ainsi que la vertu peut à nouveau rayonner. Tout ça, il faut aussi le voir dans la clé énergétique. C'est un rayonnement d'énergie. Alors bien sûr, l'éthique de Confucius, elle est quand même assez volontariste. Hein, puisque, bon, ben voilà, c'est l'éducation, c'est hein, l'obéissance au rituel. Ça. Mais quand ceci se fait, il y a un dégagement d'énergie, un rayonnement, comme par surplus, si vous voulez, comme si l'homme ne faisait rien pour, mais que c'était une conséquence de son positionnement en tant qu'être vertueux ou canal entre le ciel et la terre. Donc ça rayonne, ça y est. Et ça, c'est vraiment l'image de ces souverains mythiques où chacun va avoir une vertu complète, globale, hein, qui rayonne presque malgré lui, mais parce qu'il est là, il est le centre, il est au centre, à la fois de lui-même et de l'univers. Donc, le règne, on pourrait en donner de multiples définitions, c'est l'objectif de l'homme de bien, réaliser le règne. Et comme dit le texte, peut-être même ne serait-ce qu'une journée. Parce qu'en fait, atteindre le règne pendant une journée, c'est déjà atteindre le règne dans sa totalité. Le règne est une notion qualitative. Qualitative. Non, le règne est, on va voir, c'est un assemblage de vertus. Alors, bien sûr, le Tao, la voix, est toujours en arrière-plan. Mais là, il s'agit surtout de vertus à appliquer en société. Donc, le caractère chinois, règne, est composé de deux éléments, en fait, de deux signes. Le radical qui signifie homme et un autre signe qui veut dire deux. Ça, c'est pour faire comprendre que le règne, cette vertu humaine, c'est la vertu de l'homme qui se construit d'emblée en relation avec autrui. C'est pour ça que l'homme solitaire aura plus de mal à développer le règne, puisque c'est une vertu éminemment sociale, déjà dans la relation à deux. C'est pour ça qu'une des conséquences, ça sera la piété filiale, la piété du fils pour son père, du fils pour les ancêtres. Hein, c'est une qualité relationnelle. Et ça, c'est très important dans la pensée chinoise. Dans la pensée chinoise, tout est en lien, rien n'est isolé. C'est pour ça qu'ils vont mettre en place un certain nombre de tableaux de correspondance absolument extraordinaires qui vont être utilisés dans toutes les disciplines, chinoises, que ce soit la médecine, que ce soit l'architecture, que ce soit le droit, que ce soit l'économie, enfin, toutes les disciplines sont basées sur l'idée du lien à autrui, que tout est en correspondance. Donc les cinq éléments vont être en correspondance avec les cinq saisons, avec les cinq couleurs, avec les cinq sons, avec les cinq sens, avec les organes. C'est une vision holistique, globale, où tout est en relation et où on ne faut surtout pas isoler, casser, couper les choses. Ça, c'est la grande force de la pensée chinoise. Et qu'on va retrouver, par exemple, avec l'acupuncture, les méridiens, ou peut-être pour soigner un organe, il va falloir mettre une aiguille tout à fait ailleurs. Parce que c'est par rapport au circuit énergétique qui irrigue l'ensemble. Donc, l'univers, c'est pareil. Il est irrigué par les fleuves, par les veines du dragon. C'est-à-dire, tout est vivant. Tout est vivant, tout est en lien, tout est relié. Et c'est ça qu'il faut, pour l'homme, trouver la capacité de s'intégrer dans ce grand... dans ce grand flux, dans ce grand flot, dans cette harmonie. Et soi-même, donc, éviter de dévier, de faire barrage. Donc, c'est une qualité avant tout relationnelle, le règne, qu'on va traduire parfois, en français, par la bienveillance. L'homme de bien est un homme bienveillant. Qualité de cœur, en fait. Donc, le règne, s'il y a un mot à retenir de l'éthique confucéenne, c'est celui-là, hein, le règne. C'est une vertu d'humanité. Donc ce n'est pas un bien abstrait, absolu, métaphysique, c'est le bien, la bienveillance à vivre au quotidien, en relation avec autrui. Parce que je rappelle aussi un élément qui fait que parfois on a vraiment du mal à comprendre ces Chinois, c'est que la notion d'individu n'existe pas en Chine. Le Chinois est un être collectif. Nous, ça nous semble être l'horreur primordiale, parce qu'on est habitué à la notion d'individu, qui a sa liberté, qui a son libre arbitre, qui a sa façon. Et donc, quand on parle d'être collectif, on dit tout de suite, c'est dictatorial. Oui, mais ça, c'est très profondément ancré dans l'identité chinoise. Un Chinois ne se définit que par rapport à sa famille, que par rapport à la société, que par rapport à son village. Il n'existe pas en tant qu'individu. Et on ne peut pas juger. Ça, c'est... Et parce que eux, ils nous jugent terriblement individualistes. Et ils n'ont pas tort. Non. Donc c'est deux visions du monde différentes. Très différentes. C'est un pays de paysans, terriens, où l'attachement à la terre, c'est pour ça ce qui se passe aujourd'hui avec l'exode, c'est absolument terrible parce qu'on déracine complètement les gens. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont en recherche d'identité. Ça peut sembler paradoxal parce que de loin, ça semble la Chine, nouvelle puissance mondiale. C'est pas du tout aussi rose. Il y a une crise identitaire profonde. J'expliquerai un peu d'où ça vient. Mais le Chinois est un être collectif. C'est ce qui est encore différent de la mentalité japonaise. C'est encore autre chose, mais c'est un être collectif. Donc, ce pilier de l'éthique confucéenne, le ren, c'est la valeur éthique de l'homme qui vit en relation, toujours en société. Et le taoïste va prôner le fait de... peut-être parfois sortir de ce monde de la ville pour aller dans la nature. Mais là, il faudra toujours rester en lien avec la nature, justement. Donc le lien, il est toujours là. Et être bienveillant vis-à-vis de la nature, respecter la nature. Confucius dit, voici un homme avec qui tu peux parler. Tu ne lui parles pas, tu perds un homme. Voilà un homme avec qui tu ne dois pas parler. Tu lui parles, tu perds une parole. Sage est celui qui ne perd ni un homme, ni une parole. Donc, il faut bien réfléchir avec qui on parle et qu'est-ce qu'on dit. Pour devenir sage. Ça, c'est bien. Ça, c'est universel. Mais, alors, le règne, donc, bienveillance... mensuétude. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. Bon, ça c'est de base. Être bon fils, être simplement bon fils et bon frère, c'est déjà prendre part au gouvernement. Je disais, vraiment l'orientation sociopolitique. Être un bon citoyen, il faut déjà commencer par être un bon fils, bon frère. C'est déjà prendre part au gouvernement. Tout le monde prend part au gouvernement. Alors, pour essayer d'y comprendre quelque chose, il y a quatre éléments qui constituent le règne. Ce qu'on appelle deux vertus d'honnêteté. L'honnête homme. Deux vertus d'honnêteté. La première, c'est la loyauté. La loyauté envers les autres, mais aussi envers soi-même. Être loyal. Et donc, évidemment, il va y avoir une analyse de la décadence par Confucius qui fait que voilà, les hommes ne sont plus loyaux. Donc la loyauté. Deuxième vertu d'honnêteté, la fidélité à la parole donnée. Fidélité à la parole donnée qui fait qu'un homme peut être digne de confiance ou pas. Alors, c'est un peu différent dans la mesure où c'est une forme de loyauté où la parole n'a de valeur que si elle s'accompagne de l'action qui y correspond. Voilà. Donc la loyauté, ça peut être une loyauté en parole, rester fidèle en parole. Fidélité à la parole donnée, ça doit s'exprimer de manière concrète par l'action qui y correspond. Donc une action fidèle et loyale. Hein. C'est pragmatique. Chinois est un être pragmatique. Donc les belles paroles, oui, mais surtout les belles paroles qui se traduisent en actes. Donc acte, action loyale et fidèle. Deux autres qualités sans laquelle on ne peut pas assumer de responsabilité politique. Le discernement et le courage. Voilà. Donc leur vertu cardinale, si je puis dire, c'est loyauté, fidélité à la parole et à l'action qui va avec. Le discernement et le courage. Le discernement permet de prendre des décisions judicieuses. Et le courage doit toujours être tempéré par les autres vertus. Donc, discernement, courage vont ensemble. Si c'est du courage sans discernement, ça nous amène à la témérité. Si c'est le courage sans discernement, ça peut nous amener à la lâcheté. Donc, courage et discernement. Vous voyez, discernement, c'est plus, disons, compréhension et courage. Et donc, les préceptes confucéens sont en fait des préceptes éducatifs et ils croient à l'éducation comme facteur d'amélioration constante. Être éduqué, c'est pas simplement apprendre des beaux principes, mais c'est les appliquer. Et en ce sens, l'homme est toujours en éducation. Éducation permanente, hein, de transformation et d'amélioration de soi. Si j'ai seulement, dit-il, deux hommes avec moi, je suis sûr d'avoir un maître. D'avoir un maître. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un de qui je peux apprendre, et il y a toujours quelqu'un à qui je peux apprendre. Hein, donc c'est une notion de maître et disciple très, très vivante, où il y a plein de maîtres desquels on peut apprendre, et il y a plein de disciples à qui on peut apprendre. Donc le grand souci de Confucius, c'est de montrer que la vie en commun, la vie en société, est le principe de perfectionnement qui peut faire d'un individu un être accompli, c'est-à-dire que par ses contraintes et le contrôle que la vie en société exige des individus, eh bien, c'est là le principe de perfectionnement. C'est là l'idée de la morale agissante. Alors, quelques petits passages, toujours des entretiens. Le maître dit « Connaître la vertu sans la cultiver, accumuler les connaissances sans les approfondir, entendre parler du juste sans le pratiquer, voir ses propres défauts sans y remédier, c'est bien là ce qui me préoccupe. » C'est clair. Le maître dit « Se pénétrer en les méditant des choses connues, apprendre sans cesse du nouveau et enseigner sans relâche, cela du moins l'ai-je fait ?» À la fin de sa vie, qu'est-ce que j'ai fait? Ça au moins, voilà, je l'ai fait, j'ai enseigné, j'ai transmis. L'enseignement du maître, ça c'est un disciple qui dit, se résumait en quatre choses. L'étude des textes anciens, la pratique de la vertu, la loyauté envers ses supérieurs et la fidélité à sa parole. Le maître dit, atteindre le règne, ou à plus forte raison, la sagesse suprême. Vous voyez, le règne, c'est pas la sagesse suprême, c'est une étape vers. Atteindre le règne, ou à plus forte raison, la sagesse suprême, je ne saurais y prétendre. Tout ce que je puis dire, c'est que j'y tends de toute mon âme, sans me lasser jamais d'enseigner. Le maître dit, sois avant tout loyal et fidèle à ta parole. Ne choisis pour amis que ceux qui partagent tes exigences. N'aie pas peur de corriger tes propres défauts. Ne cherche pas à corriger les défauts des autres. La paille. Le maître dit, une grande armée peut être dépourvue de son général en chef, mais quiconque tend vers la voie ne peut être privé de sa volonté. Alors, bon, je parlerai dans la conférence sur le politique des œuvres, en fait, des références classiques auxquelles Confucius se réfère. Là, je vais vous expliquer autre chose sur les qualités et les défauts qui constituent l'éthique de Confucius. Bon, on a vu le règne. Il y a quelques éléments complémentaires qu'on trouve dans les entretiens. Zizang demande à Confucius ce qu'il faut faire pour bien gouverner. Le maître dit, il suffit d'honorer les 5 qualités et bannir les 4 défauts. 5 qualités, 4 défauts. Qu'appelez-vous les 5 qualités ? Donc ça, c'est dans le livre 20 des entretiens, paragraphe 2. Qu'appelez-vous les 5 qualités ? L'homme de bien est capable d'être généreux sans gaspillage. De faire travailler le peuple sans susciter rancune. D'avoir des aspirations sans convoitise. D'être grand seigneur sans prendre de grands airs. Et d'être imposant sans être intimidant. Donc c'est toujours cette recherche aussi un peu d'harmonie, je ne dirais pas juste milieu, parce que ce n'est pas un terme qui est employé, mais d'harmonie, d'éviter les excès. Et alors le disciple demande, mais comment peut-on être généreux sans gaspillage ? Et le maître répond, s'il favorise, l'homme de bien, s'il favorise ce qui profite naturellement au peuple, ne sera-t-il pas généreux sans gaspillage ? Donc ça, c'est le critère, la réponse, être généreux sans gaspillage. Bon, ben, il faut favoriser ce qui profite naturellement au peuple. S'il ne lui assigne que des tâches dont il est capable, aura-t-il des plaintes ? Pour ne pas faire travailler le peuple sans susciter des rancunes, lui demander ce dont il est capable. Si lui-même aspire et parvient au règne, que convoitera-t-il ? Pas d'autre convoitise que celle de se rapprocher du règne. L'homme de bien ne se permet aucune négligence, qu'il ait affaire à une foule ou à un petit groupe, à des choses mineures ou importantes. N'est-il pas grand seigneur sans grands airs ? Donc, lutter contre la négligence. L'homme de bien, par la rigueur de sa coiffe et de ses vêtements, par la dignité de son regard, impressionne ceux qui le voient de loin. N'est-il pas imposant sans être intimidant ? Bon, ça mériterait hein, d'approfondir, de travailler, de réfléchir sur tous ces traits qui sont dits de manière très, très rapide, très simple, mais qui renforcent cette idée, bien sûr, d'un effort à faire sur soi, mais qu'une fois que l'homme est bien placé dans le bon positionnement, dans le bon état d'esprit, les choses coulent d'elles-mêmes. Et c'est ressenti ainsi par le peuple. Ça rejoint cette idée vraiment d'harmonie, de grande paix, qu'on ne peut pas faire régner l'harmonie et la grande paix si elles n'existent déjà pas en soi. Alors, le disciple continue. Et qu'entendez-vous par les quatre défauts ? Le maître répond : punir de mort au lieu d'instruire. Vous voyez qu'on s'est beaucoup éloigné de tous ces principes. Punir de mort au lieu d'instruire, c'est de la tyrannie. Attendre qu'un travail soit fait sans donner de préavis, c'est de l'oppression. Donc les quatre défauts, la tyrannie, l'oppression, être lent à émettre des ordres et prompt à exiger leur exécution, c'est de l'arbitraire. Donner à quelqu'un son dû tout en le faisant avec parcimonie, c'est de la mesquinerie. Donc les quatre défauts, la tyrannie, l'oppression, arbitraire et parcimonie. Mesquinerie. Mesquinerie. Manque de générosité. Être lent à émettre des ordres et prompt à exiger leur exécution. C'est le livre 20. Il y a 20 petits chapitres dans les entretiens, Confucius. C'est le livre 20, c'est le dernier, qui s'appelle du mandat céleste. Donc vous voyez, ce genre de principe est applicable dans tous les cercles, dans le cercle familial, dans le cercle un peu plus large de la communauté villageoise, pour un fonctionnaire, pour un ministère.
Mais pas pour le peuple. Il n'a pas parlé du peuple.
Pour le peuple. Ça concerne chacun. Puisque être fils et bon frère, c'est déjà prendre part au gouvernement. Tout le monde fait de la politique. Tout le monde fait de la politique. Et il faut commencer par faire de la bonne politique dans le cadre de la familiale. Et la famille, tout le monde en a. Tout le monde a un père. Tout le monde a une famille, tout le monde a un frère. Bon, donc, si, c'est pour ça que ça a eu énormément d'impact, parce que c'est à tous les niveaux que ça se joue. Autre élément, le rôle fondamental du rituel. Lit. Le rituel, l'observance. L'observation des rituels. C'est une autre clé de voûte de l'édifice confucéen. Hein, on peut dire le règne, avec, bon, complété de ce que je viens de vous dire hein, sur les défauts, les qualités, et le rituel. Le caractère chinois, Li, se représente par un vase sacrificiel. Vous voyez peut-être ces magnifiques. Vase en bronze, hein, typique de la civilisation chinoise, qui servait à faire les sacrifices, c'est-à-dire les offrandes. Hein, quand on dit vase sacrificiel, c'est les offrandes. Les offrandes au ciel, les offrandes à la terre, les offrandes au génie de la nature, et ces fameuses cloches aussi, qui sont en bronze, hein, que l'on frappe avec une sorte de maillet extérieur, et qui donne l'importance de la musique dans les cérémonies et les rituels chinois. C'est pour ça que Confucius va s'intéresser aussi à la musique, hein, et au rôle, évidemment, apaisant, harmonieux de la musique. Donc il n'y a pas de rituel en Chine sans offrande, hein, sans les sacrifices, l'acte sacré, les offrandes, et la musique et la danse, qui sont deux arts liés à l'harmonie. Donc, pour Confucius, tout rituel doit être accompagné de musique et de danse qui vont constituer l'harmonie et l'efficacité du geste. Le geste rituel est un geste qui a du sens. Le geste rituel est un geste porteur de sens. Et donc, il doit être fait avec cette finalité de faire vivre et d'appliquer l'harmonie, la paix. Ça ne peut pas être un geste habituel, routinier, mécanique, hein, toujours se demander quelle est la finalité du geste rituel. Et donc, c'est de l'accomplissement rigoureux des rites que dépend la bonne marche de l'État. Alors, un exemple de rite qui était fait, par exemple, par l'empereur, par rapport aux cinq saisons, c'est que au début de l'hiver, il se rendait aux confins nord de l'Empire. Parce que l'hiver, c'est la saison froide, c'est lié au nord. Hein, puisqu'il y a une imbrication de l'espace et du temps. Au printemps, il allait à l'est. L'été, au début de l'été, il allait au sud. Et au début de l'automne, à l'ouest. Pour irriguer le pays de son énergie. Et c'est toujours cette idée du lien, hein, entre le ciel et la terre. Donc, l'empereur va, se déplace, hein, jusqu'aux confins de l'Empire pour irriguer et faire en sorte que le territoire soit ancré au ciel, que la terre soit ancrée au ciel. Et au centre, il revenait à sa capitale, qui était le centre, pas un centre géographique, hein, mais un centre symbolique. La capitale, qui n'a pas toujours été Pékin, mais qui a été Nankin, ça a un peu varié. Il y va à ce moment où il y a danger dans la nature, qui est à la fin de l'été, au début de l'automne. À ce moment où les énergies passent une polarité chaude, hein, et lumineuse, yang, à une polarité yin. Donc fin de l'été, début de l'automne, on passe du yang au yin, et là, l'empereur doit se recentrer, hein, donc revenir au centre pour recentrer, hein, faire que les énergies soient à nouveau dans une polarité de centripète, hein, et pour recréer le lien, l'harmonie, la grande paix, avant les saisons froides. Ça, c'est un exemple de rite impérial qui s'est fait pendant très longtemps, et ensuite, lors des premières dynasties, après c'était un peu compliqué parce que c'est une logistique assez, assez complexe, hein, d'aller géographiquement jusqu'au bout de l'Empire. Donc ça s'est fait dans un temple. Mm-hmm. Ça s'est fait dans un temple qu'on appelle le temple du calendrier, Tang, où l'empereur s'orientait vers le nord, s'orientait vers l'est, s'orientait vers le sud, l'ouest et le centre, mais sans aller, sans faire des milliers de kilomètres. Mais le rite est resté très puissant. Il y a les rites au ciel, les rites à la terre, en fonction des saisons. Enfin, c'est ça les rites dont parle Confucius.
Tout à l'heure, vous parliez de cinq saisons.
Oui. Alors, la cinquième, c'est cette petite saison, enfin très courte, hein, intermédiaire, à fin de l'été, début de l'automne. C'est la cinquième saison où c'est le danger parce qu'on passe d'une polarité à une autre, avec toutes les perturbations liées à ce passage. C'est ça la cinquième saison. Donc liée au centre, liée à la couleur jaune, l'empereur jaune. Parce que chaque empereur était lié à une couleur.
Il n'y a pas le passage du yin au yang,
non.
Ah bon.
Parce que c'est beaucoup plus facile de passer du yin au yang que du yang au yin. Même nous, hein, quand on va changer d'heure la semaine prochaine et qu'on se, on va vers les saisons, c'est les énergies. Pourquoi ? Parce que les énergies sont moindres. On passe d'une période lumineuse, chaleureuse, avec beaucoup d'énergie externe, à des périodes où il va falloir travailler l'énergie plus interne. Et donc c'est plus difficile. Hein, c'est plus difficile d'aller vers l'automne que vers le printemps, en général. Bon, on reviendra sur cette histoire du rituel. L'homme de bien est impartial et vise à l'universel. Voilà. L'homme de bien s'ouvre à l'universel, l'homme de peu se renferme dans son petit quant à soi. Alors, dernier principe des entretiens. L'homme de bien a souci de 9 choses. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de conseils, beaucoup d'éléments concrets sur les vertus à développer. 9 choses. Il s'applique à bien voir ce qu'il regarde. Donc, il ne s'agit pas seulement de regarder, mais de voir. Il s'applique donc à bien voir ce qu'il regarde, à bien entendre ce qu'il écoute. Il a souci de respirer la bienveillance dans son expression. Toujours cette idée de bienveillance. La déférence dans ses manières. L'honnêteté dans ses paroles. Le sérieux dans son travail. C'est ça l'éthique, confucéenne. Hein. Donc je répète, il s'applique à bien voir ce qu'il regarde, à bien entendre ce qu'il écoute. Il a souci de respirer la bienveillance dans son expression, la déférence dans ses manières, l'honnêteté dans ses paroles, le sérieux dans son travail. Dans le doute, il demande conseil. Dans un accès de colère, il pense aux conséquences. Et dans la perspective d'un profit, il garde le souci du juste. Alors, ceci permet de comprendre pourquoi, et je le développerai aussi dans la conférence sur le politique, parce que là ça ferait un peu trop, pourquoi aujourd'hui on assiste, dit-on, ça c'est ce qu'on lit parfois, à un renouveau du confucianisme. Alors, c'est à prendre avec beaucoup de prudence et de pincettes, et on a encore très peu de recul. Mais il est vrai que depuis une vingtaine d'années, on assiste à l'émergence de nouvelles formes d'enseignement de la pensée de Confucius. Et on ne peut pas comprendre ça si on ne sait pas que, en fait, depuis le début du XXe siècle, mais en fait même plus avant, vers la moitié du XIXe, il y a une rupture qui va s'opérer en Chine, notamment sous la poussée des puissances occidentales. Ça va commencer lors des fameuses guerres de l'opium, où un certain nombre d'élites lettrées chinoises vont remettre en cause leur héritage chinois, donc confucéen, taoïste ou bouddhiste, au profit de valeurs plus occidentales. Donc il va déjà y avoir une rupture au milieu du 19e, où un certain nombre d'élites vont abandonner les valeurs traditionnelles séduites par les valeurs occidentales. Et ça va bouleverser la politique, la religion, la philosophie, le droit, enfin tout. Et donc c'est une rupture qui vient déjà de cette époque. Et après, 20e siècle, on va avoir tous les soubresauts révolutionnaires. Déjà en 1919, où là aussi il y a une révolution contre la tradition. Ensuite, il va y avoir l'arrivée des communistes en 1949, la révolution culturelle maoïste entre 1966 et 1976. Et pendant toute cette période, Confucius va être pris comme bouc émissaire. Il sera la tête de turc hein, de tous les mouvements révolutionnaires. Et on va associer confucianisme à tradition, oppression, culte immodéré des ancêtres. Enfin, Confucius et le confucianisme vont être accusés de tous les maux. Et les procès, il va y avoir des multitudes de procès pour confucianisme. Révisionnisme. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est le côté conservateur, donc un élément qui empêche la Chine d'aller vers le progrès. Un élément révisionniste, régressif, etc. Donc, et ça sera sanglant. Et il va y avoir ensuite, bon, après la révolution culturelle, le développement économique à l'occidental de la Chine, hein, qu'on connaît aujourd'hui, de manière effrénée, et avec une sorte de table rase hein, et de détraditionnalisation, désacralisation de tout. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on assiste à un retour et à une volonté de revenir, pas simplement au confucianisme, aux valeurs de Confucius, mais à de la culture chinoise. Et donc, dans les universités, on recommence à étudier Confucius et les classiques, les textes classiques, on verra la prochaine fois. On commence à réexpliquer aux petits Chinois l'importance de la philosophie et du rythme. Il y a des sites internet qui se créent. Enfin, il y a une sorte d'engouement aujourd'hui, surtout chez les jeunes générations, de revenir, de se réapproprier la culture chinoise. Et ça prend effectivement ce chemin de réhabiliter Confucius, réhabiliter l'éthique confucéenne, mais réhabiliter aussi le taoïsme, enfin, disons, le socle identitaire et culturel chinois qui est en grand danger. Donc, il était indéniable qu'il y a une sorte d'engouement qui se fait jour, qui se voit aussi assez bien aux États-Unis, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup d'étudiants chinois, beaucoup d'universitaires chinois, beaucoup plus que chez nous. Donc là-dessus, en Europe, on est encore un peu en retard par rapport à cette compréhension de ce qui se passe en Chine aujourd'hui, et qui est un renouveau du confucianisme aussi, récupéré par les instances politiques, puisqu'en 2003... il y a eu un grand mouvement lancé par Hu Jintao sur le mouvement de l'harmonie. C'est-à-dire, bien entendu, hein, il ne faut pas être naïf. Voilà, disons que ça reste très géré, maîtrisé. Mais, disons, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes générations qui ont envie de connaître cette culture dont les deux générations précédentes ont été privées. Puisqu'en fait, cette révolution culturelle, il n'y a pas pire mouvement contre la culture, justement, et contre les racines. Donc, un mouvement de balancier qu'il est très difficile d'analyser parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, mais qui, depuis une vingtaine d'années, 20-30 ans, quand même, se fait jour pour revenir aux fondamentaux. Et c'est vrai que quand on parle d'identité chinoise, on pense surtout à Confucius, plus qu'à Lao Tzu et plus qu'au bouddhisme, même si c'est très imbriqué, parce que c'est lui qui a vraiment prôné une éthique et surtout un système de gouvernement dans une Chine qui est complètement sans dessus-dessous. avec le, toute cette tradition paysanne qui est en train de se perdre, des exodes forcés, enfin bon, qui toujours nous choquent par le, l'ampleur et la violence. Donc, voilà, il y a beaucoup de mouvances intéressantes à étudier aujourd'hui, de refus d'un certain nombre de jeunes de l'idéologie finalement occidentale de progrès qui a été imposée. Le côté un peu plus dangereux peut-être de ce renouveau confucianiste, c'est qu'il s'habille parfois d'un renouveau nationaliste. Et qui peut être certains cercles confucéens ou confucianistes, hein, disons, peuvent être des germes d'une vision nationaliste ou parce qu'on sait aussi, et ça c'est un peu l'ombre de la pensée chinoise, que la xénophobie a toujours existé en Chine. Hein, on est l'empire du milieu, voilà, on est le centre un peu du monde, et donc, voilà, une vision aussi parfois impérialiste, expansionniste. Effectivement, on voit bien le malheureux cas du Tibet. Donc, c'est tout envoyé en ombre et lumière, et de toute façon, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe, en plus. Il y a les réseaux sociaux qui commencent à se développer comme partout, mais donc il faut être très prudent quand on dit renouveau du confucianisme. C'est plus, me semble-t-il, un renouveau d'une quête identitaire, quête d'identité, que de Confucius ou des textes qui, de toute façon, même s'ils sont réétudiés, vont être réécrits, réinventés une fois de plus. Parce que ça, les Chinois savent très bien faire. Comment ? Il y a pas de... Non. Donc, voilà, peut-être d'ici quelques dizaines d'années, on réécrira Confucius. En tout cas, il y a une vraie problématique. Et si Confucius revenait aujourd'hui, je pense qu'il serait totalement atterré. Parce que ça, c'est même plus la perte du mandat céleste. Là, c'est... tout part à voler.